Radio Vatican, France et Afrique.
Vous êtes bel et bien à l'écoute de Radio Vatican. Bienvenue dans cette nouvelle édition de notre programme. François se rendra au Canada du 24 au 30 juillet prochain. Des milliers d'enfants du Burkina Faso s'étaient rassemblés au sanctuaire Notre-Dame des Yagmas pour leur pèlerinage annuel. Une étudiante chrétienne lapidée au Nigeria, les responsables religieux appellent au calme. Et dans le cadre de notre magazine, nous vous proposerons un retour sur l'actualité qui a dominé la semaine en dehors du continent africain. Installez-vous bien, les détails c'est tout de suite dans ce programme que nous émettons depuis la cité du Vatican.
Radio Vatican, France et Afrique, Donatien Niembo.
Le Saint-Siège a confirmé ce vendredi les dates du voyage apostolique du pape François au Canada. François est attendu dans le pays du 24 au 30 juillet prochain. Accueillant l'invitation des autorités civiles et ecclésiales ainsi que des communautés autochtones, le Saint-Père François accomplira un voyage apostolique au Canada du 24 au 30 juillet prochain visitant les villes d'Edmonton, Québec et Iqaluit, a précisé un communiqué de la salle de presse du Saint-Siège. Le programme et les détails du voyage seront rendus publics dans les prochaines semaines. Ce vendredi, le pape François a reçu les participants à la conférence internationale sur la théologie morale, une initiative qui s'inscrit dans le cadre de l'année de la famille à Maurice Laetitia, convoquée pour stimuler la compréhension de l'exhortation apostolique et aider à orienter les pratiques pastorales de l'Église qui se veut toujours plus synodale et missionnaire. Dans le message qu'il a adressé à ses hôtes, le pape les a invités à puiser dans la riche spiritualité qui germe dans la famille. En effet, pour François, la famille joue aujourd'hui un rôle décisif sur les chemins de la conversion pastorale de nos communautés et de la transformation missionnaire de l'Église. Pour cela, ajoute-t-il, il faut une réflexion théologique, également au niveau académique, qui soit réellement attentive aux blessures de l'humanité. Toujours vendredi, le pape s'est adressé à la Commission internationale de dialogue anglican catholique romain. En trois phases, votre commission de dialogue a cherché à laisser derrière elle ce qui compromet notre communion et à entretenir les liens qui unissent catholiques et anglicans, leur a dit le pape pour qui ce dialogue œcuménique est un voyage. Il s'agit d'apprendre à se connaître personnellement et pas seulement à travers des livres, de partager nos aspirations et nos moments de fatigue et de se salir les mains dans un service partagé envers nos frères et sœurs, blessés, abandonnés sur les chemins de notre monde. Cela implique de s'approcher avec un seul regard et un engagement commun de la création de Dieu tout autour de nous et s'encourager mutuellement à persévérer sur le chemin. C'est ce que signifie marcher ensemble, a dit le pape. À mentionner également parmi les hôtes du pape de ce vendredi, les gestionnaires et opérateurs de l'école italienne d'aviation civile. L'aviation civile a contribué au développement du monde contemporain en rapprochant des peuples éloignés et en les faisant mieux connaître, a reconnu François en encourageant ses hôtes à faire de l'aviation un véritable lieu de rencontre. Et l'actualité de l'Église en Afrique nous conduit au Burkina Faso. Des milliers d'enfants de différents diocèses du Faso se sont retrouvés au sanctuaire marial Notre-Dame des Yagmas pour leur pèlerinage annuel. Les précisions de Paul Da.
Sous le thème « Enfants », il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. Des milliers d'enfants de plusieurs diocèses du Burkina Faso se sont retrouvés au sanctuaire marial Notre-Dame de Yagma pour leur pèlerinage annuel. C'est l'abbé Alfred Ouédraogo, vicaire général de l'archidiocèse de Ouagadougou, qui a présidé l'Eucharistie, sommet de ce pèlerinage de l'enfance missionnaire, ce quatrième dimanche de Pâques, dimanche des vocations. L'abbé Alfred.
En écho à l'appel lancé par le pape, nous avons rappelé aux enfants qu'ils sont tous appelés pour être missionnaires, chacun là où il est envoyé. Notre message visait simplement à réveiller cette conscience missionnaire dans le cœur des enfants afin que dans leur milieu respectif, ils puissent être des témoins authentiques de Jésus-Christ.
Les jeunes pèlerins, à l'instar de Sidonie Rwamba de la paroisse cathédrale de Ouagadougou, en repartent contents.
Jésus a été très bon pour moi parce que je suis venue ici et j'ai trouvé mes camarades de l'année passée. Donc, j'ai été très contente. J'ai demandé à Maman Marie de me donner la grâce, de me fortifier et de me rendre heureuse.
En tout cas, ils ont chanté tous en chœur ce dimanche 8 mai 2022 au sanctuaire marial Notre-Dame de Yagma. Paul Da, Ouagadougou pour Radio Vatican.
Autre pèlerinage au Tchad, cette fois plus précisément dans le diocèse de Doba, Séverin Ndingatoloum.
Le coup d'envoi des pèlerins a été donné par la bénédiction de l'ordinaire du lieu, Monseigneur Martin Wengebani, Abbé Bungaï, un village situé à 38 km de la ville pétrolière du Tchad. C'est sous une chaleur ardente que les pèlerins ont, à travers chansons, stations de méditation et récitations de chapelets, bravé à pied. Tout d'abord la poussière, puis la pluie, à plus de 7 km pour arriver au sanctuaire diocésain à Bebo. Le second jour a été marqué par les catéchèses axées sur le thème « Avec Marie, marchons à la suite du Christ », la célébration pénitentielle suivie des confessions individuelles et adorations. Au dernier jour, ce fut la messe de clôture présidée par le pasteur propre. Dans son homélie, le prélat a mis un accent particulier sur la prière pour les vocations, mais aussi la communion de cœur comme condition sine qua non du marchant ensemble.
La prière fait partie de la mission. Et Jésus le demande spécialement de prier pour que le Seigneur envoie des ouvriers à sa moisson. Et pour accomplir cette mission, il faut marcher ensemble. Marcher ensemble, c'est la communion de cœur. Chacun doit se sentir responsable de la mission que Jésus leur confie.
Sinon que c'est sur une note de satisfaction, à travers des chants d'action de grâce et de louange, que les pèlerins se sont séparés. Séverin Ngatolom pour la Radio Vatican.
Le pape François canonise ce dimanche 10 bienheureux parmi lesquels Charles de Foucault. Monsieur Célestin Junior Fouzatou Komlan est responsable de la fraternité séculière Charles de Foucault du Bénin. Il revient sur la vie de cette fraternité basée sur la spiritualité de Charles de Foucault.
Alors, cet événement, c'est vraiment une immense joie, cette bonne nouvelle de la canonisation du bienheureux frère Charles de Foucault. Pour nous qui suivons la spiritualité du frère Charles, partout dans le monde entier.
Voilà, la joie, l'action des grâces. Depuis qu'existe votre fraternité qui suit la spiritualité de Charles de Foucault, dans quelles œuvres ou dans quelles activités a survécu ce charisme du frère Charles de Foucault?
Alors, pour le charisme du frère Charles de Foucault, je peux dire, c'est de crier l'évangile par toute notre vie. Autrement dit, travailler à la sanctification du monde, sans parole, en silence, porter l'évangile, non en le prêchant de bouche, mais en le prêchant d'exemple, non en l'annonçant, mais en le vivant. Et Frère Charles redit l'essentiel, revenons à l'évangile. Si nous ne revenons pas à l'évangile, Jésus ne vit pas en nous. Alors nous devons être un évangile vivant. Comme il le dit, je cite, « Mon apostolat doit être celui de la bonté. En me voyant, on peut dire, puisque cet homme est bon, sa religion doit être bonne. » Fin de citation. Il nous a donné l'exemple quand il était au milieu des Touaregs et à Tamaracet.
Parlez-nous un peu de cette fraternité Charles de Foucault au Bénin.
Alors, la fraternité séculaire Charles de Foucault, je peux déjà vous dire qu'il est né le 1er décembre 1976 sur la paroisse Sacré-Cœur de Cotonou à Papa, où quelques couples chrétiens catholiques, à la recherche d'un groupe de prière et guidés par le curé d'alors, le père du Jarier, qui ont constitué le premier embryon. Alors actuellement, elle est composée d'une trentaine de membres actifs et de sympathisants qui se réunissent deux fois par mois pour un enseignement, tous les thèmes qui peuvent nous donner l'envie de suivre le Christ. Nous avons des moments aussi, des moments de désert. Alors nous avons des retraites, des récollections que nous faisons. Nous faisons aussi des pèlerinages, des retraites annuelles.
Vous suivez l'exemple de Charles de Foucault. Que peut enseigner au monde aujourd'hui la vie de Charles de Foucault?
Ce que nous pouvons retenir de la vie de Frère Charles, c'est d'abord qu'il est homme de son temps et prophète pour aujourd'hui.
Dans combien de pays est répandue votre fraternité et combien de pays africains?
Elle est dans les quatre continents du monde et l'Australie. Alors en Afrique, nous sommes répandus dans 14 pays et en Amérique, nous avons 18. En Asie, nous avons 7. Et en Europe, nous avons 10.
Et alors, quel est l'apport de votre fraternité et de toutes ces congrégations dans l'Église et dans la société, et aussi en Afrique en particulier?
Alors, notre apport dans l'Église et la société en Afrique, c'est d'abord de bâtir une fraternité universelle à partir des pauvres et les mettre au centre de la société et de l'Église.
C'était Monsieur Célestin Junior Fouzatou Komlan, responsable de la fraternité séculière Charles de Foucault du Bénin, dans des propos recueillis par Stanislas Kambashi.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Le ministre camerounais des Transports a confirmé jeudi soir sur le site du crash d'un avion mercredi dans une forêt au Cameroun la mort de ses 11 passagers et annoncé que les boîtes noires ont été trouvées. Jeudi, la radio d'État CRTV avait assuré que les 9 passagers et 2 membres d'équipage de l'appareil à hélice de la Cameroun Oil Transportation Company SA, une compagnie exploitant un pipeline de pétrole, avaient péri dans l'accident. Au Nigeria, le sultan de Sokoto Muhammadu Saad Abubakar, la plus haute autorité spirituelle des musulmans nigérians, et l'évêque catholique de Sokoto Matthew Hassan Kuka ont appelé jeudi au calme et demandé que justice soit faite après la lapidation à mort de Deborah Samuel, une étudiante chrétienne dans le nord-ouest du Nigeria, accusée de blasphème contre le prophète Mahomet. Deborah Samuel a été lapidée à mort par des dizaines d'étudiants de l'école Shehu Shagari et qui ont par la même occasion brûlé son corps après avoir lu un commentaire qu'elle avait posté sur les réseaux sociaux qu'ils ont considéré comme offensant à l'égard du prophète Mahomet. Deux suspects ont été arrêtés selon la police. Restons au Nigeria. 18,5 millions d'enfants, dont plus de 10 millions sont des filles, sont non scolarisés au Nigeria, selon un récent rapport de l'UNICEF. Pour Rahama Farah, chef du bureau extérieur du Fonds des Nations Unies pour l'enfance à Kano, la situation est alarmante. Les détails avec Ishaka Abdegboye, notre correspondant à Abuja.
Les forces de sécurité nigérianes ont aussi contribué au problème en utilisant des écoles comme base militaire, exposant encore plus les enfants aux attaques de groupes armés islamistes Boko Haram. La scolarisation des filles en général dans le nord du Nigeria n'est pas chose aisée. Les parents préfèrent les travaux champêtres pour leur progéniture. La non-scolarisation dans le nord du Nigeria a aussi favorisé le mariage précoce des filles qui sont exposées au fléau des fistules vaginales après leur accouchement. Les enfants non scolarisés de 5 à 12 ans sont des cibles potentielles pour tous les défis sécuritaires qui affectent actuellement le Nigeria. Malgré les menaces et la gratuité de l'école, les parents réfractaires continuent de ne pas scolariser leurs enfants. Ishaka Deboye à Abuja pour Radio Vatican.
Le président tunisien Kais Saied s'est dit jeudi hostile à la présence d'observateurs étrangers aux prochains scrutins prévus en Tunisie. « Nous ne sommes pas un État sous occupation pour qu'on nous envoie des observateurs », a-t-il déclaré lors de la cérémonie de prestation de serment des nouveaux membres de l'instance supérieure indépendante pour les élections qu'il s'est arrogé le droit de nommer. Les opposants de M. Saied l'accusent de vouloir mettre en place une instance électorale docile avant l'organisation du référendum et du scrutin législatif.
Radio Vatican, France-Afrique, Donatien Niembo.
Protem Piranha, le fugitif le plus recherché par la justice pour son rôle dans le génocide au Rwanda en 1994, est décédé en 2006, ont annoncé jeudi les procureurs de l'ONU enquêtant sur l'affaire. En cavale depuis 2000, Protem Piranha était depuis l'arrestation en 2020 de Félicien Kabuga, régulièrement présenté comme le financier du génocide, le fugitif rwandais le plus recherché par la justice pour son implication présumée dans les génocides où il commandait alors la très puissante garde présidentielle. Des ONG nigériennes ont déposé une plainte au parquet de Niamey après la révélation par la Cour des comptes des malversations dans des services publics atteignant 63 milliards. Cette plainte intervient près d'un mois après que la Cour des comptes du Niger avait remis son rapport 2021 au président nigérien Mohamed Bazoum sur la gestion de services, entreprises publiques, collectivités territoriales et projets financés par des bailleurs étrangers. Un rapport qui révèle l'ampleur de la corruption dans les services publics. Une information judiciaire a été ouverte contre l'ex-président guinéen Alpha Condé et plusieurs autres ex-personnalités, dont le dernier premier ministre de M. Condé, Ibrahima Kassori Fofana, pour des faits présumés notamment d'assassinat, actes de torture, enlèvements et viols, a annoncé le parquet des Dixon à Conakry.
Vous écoutez Radio Vatican, c'est l'heure du magazine.
L'actualité internationale à présent, c'est avec Françoise Niamien.
Commençons notre magazine par cette aide supplémentaire de l'Union européenne. L'UE va fournir une aide militaire supplémentaire de 500 millions d'euros à l'Ukraine pour l'aider à se défendre de l'invasion russe. C'est ce qu'a déclaré vendredi le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Josep Borrell. 10 combattants pro-régime ont été tués vendredi dans le nord de la Syrie quand leur bus a été visé par un missile dans l'attaque rebelle la plus meurtrière depuis la trêve de 2020, rapporte l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les funérailles de la journaliste palestino-américaine Shireen Abu Akleh ont eu lieu vendredi. La journaliste a été tuée d'une balle dans la tête 2 jours plus tôt à Jenin, en Cisjordanie, occupée alors qu'elle couvrait un raid israélien. L'armée israélienne a déclaré jeudi qu'il n'était pas possible de savoir d'où venait le tir qui l'a tuée après avoir tenté d'accuser les groupes armés palestiniens d'en être responsables. Les Palestiniens dénoncent un nouveau crime israélien contre cette journaliste originaire d'une famille palestinienne chrétienne de Jérusalem. Valérie Ferron.
Le décès de Shireen Abu Akleh a provoqué une onde de choc dans l'ensemble du monde arabe en raison à la fois de sa notoriété comme correspondante de la chaîne Al Jazeera ainsi que des circonstances de sa mort. Celle-ci couvrait avec d'autres journalistes palestiniens l'opération militaire israélienne en cours à Jenin dans le nord de la Cisjordanie lorsqu'elle a été tuée d'une balle dans la tête. Or, tous ces journalistes professionnels étaient clairement identifiables et se trouvaient dans une zone où seuls les soldats et les snipers israéliens étaient présents, comme en ont témoigné ses collègues, vidéo à l'appui. La direction palestinienne a en conséquence rendu responsables les forces d'occupation israéliennes de la mort de Shireen Abu Akleh, qualifiée d'assassinat commis de sang-froid. Pour les Palestiniens, cette journaliste, originaire d'une famille chrétienne palestinienne de Jérusalem et qui détenait également la citoyenneté américaine, est devenue un nouveau symbole de leur résistance. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
330 kg, c'est le poids de déchets alimentaires évitables par habitant généré chaque année en Suisse, selon une estimation du ministère suisse de l'Environnement qui a lancé un grand projet pour lutter contre le gaspillage. Simonetta Sommaruga, ministre de l'Environnement, vient de signer un accord jeudi avec 28 représentants de la chaîne de production alimentaire afin de réduire de moitié les pertes alimentaires évitables d'ici 2030. Au Sri Lanka, le nouveau premier ministre Ralin a pris ses fonctions jeudi. Il succède à Mahinda Rajapaksa, qui a été contraint à la démission par son frère, le président Gotabaya Rajapaksa. Le chef de l'État tente ainsi de sauver son poste alors que la population étranglée par la crise des réserves de change qui provoque des pénuries demande sa tête. Les précisions reçues de notre correspondant dans la région, Emmanuel Derville.
Ranil Wickremesinghe aura la lourde tâche de sortir le pays de la crise. Le Sri Lanka n'a que quelques dizaines de millions de dollars de réserves de change et est au bord de la faillite. L'ancien Premier ministre a la réputation d'avoir des contacts dans la communauté internationale, de quoi espérer une aide financière étrangère rapide et une avancée des négociations avec le FMI. Mais sa nomination ne satisfait pas la population qui manifeste depuis le mois de mars pour obtenir la démission du président Gotabaya Rajapaksa et le renouvellement de la classe politique. Ranil Wickremesinghe a déjà été Premier ministre 5 fois. Son nom est associé à un scandale financier ainsi qu'aux attentats de Pâques en 2019 qu'il a été incapable de prévenir. Seule la fin du régime présidentiel et des élections anticipées pourrait satisfaire l'opinion. Mais Ranil Wickremesinghe est proche du clan Rajapaksa. Le président et son frère peuvent espérer que les poursuites pour corruption et crimes de guerre à leur encontre ne soient pas rouvertes. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
11 corps ont été découverts et 31 personnes secourues lors d'une large opération de sauvetage qui se poursuivait jeudi soir après le chavirage des navires au large de Porto Rico, ont annoncé jeudi les gardes-côtes américains. Le procureur du Paraguay spécialisé dans la lutte contre le trafic de drogue, Marcello Pecci, a été assassiné mardi en Colombie par des tueurs débarqués en jet ski sur la plage paradisiaque d'une île des Caraïbes où il passait sa lune de miel. 200 détenus évadés ont été recapturés mardi par les forces de sécurité au lendemain d'une évasion massive d'une prison du nord de l'Équateur à la faveur d'une émeute meurtrière apparentée à une boucherie, selon les proches éplorés des victimes. Ferdinand Marco Jr., fils du défunt dictateur du même nom, a remporté mardi une victoire écrasante à la présidentielle aux Philippines, réinstallant son clan familial au sommet du pouvoir 36 ans après la révolte populaire qu'il avait chassée.
Place à la rubrique sur les migrations avec Marie-Josée Mwando Boisboileau.
Au Tchad, des milliers de réfugiés venant du Cameroun vivent dans une situation très précaire. Plusieurs milliers de Camerounais ont trouvé refuge au Tchad à la suite d'un conflit opposant des communautés d'éleveurs à des pêcheurs. Ces réfugiés vivent dans des camps gérés par la Commission nationale d'accueil de réinsertion de réfugiés et financés en partie par l'Union européenne et les Nations unies. Les conditions de vie y sont difficiles. Près de 10 000 réfugiés Camerounais vivent dans le camp de Kalambari, à quelques kilomètres de N'Djamena, la capitale. Les humanitaires ont mis des forages, des écoles et un centre de soins. 6 mois après leur arrivée, beaucoup estiment qu'il est trop tôt pour rentrer, craignant de nouveaux conflits dans leur pays d'origine. Au Niger, plus de 36 000 nouveaux réfugiés fuyant les violences au Mali, au Nigeria et au Burkina Faso sont arrivés entre janvier et mi-avril, ce qui porte leur nombre total à quelque 360 000, c'est ce qu'a indiqué le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés. Le HCR se dit préoccupé par cet accroissement du nombre de réfugiés alors que les attaques contre les civils augmentent en fréquence et en violence. Les nouveaux arrivants en provenance du Mali fuient les combats entre l'État islamique au Grand Sahara et le groupe Touareg du mouvement pour le salut de l'Azawad dans les régions de Gao et Menaka. Les réfugiés nigériens fuient quant à eux la recrudescence des pillages, des expropriations de biens, des agressions et des enlèvements perpétrés par des bandits armés dans les États de Katsina et de Sokoto dans le nord-ouest de leur pays. Quant aux déplacements en provenance du Burkina Faso, ils sont dus à une insécurité persistante et généralisée. Le HCR souligne que les réfugiés, qui sont pour la plupart des femmes et des enfants, ont besoin d'un abri, de nourriture et d'eau, d'articles non alimentaires et d'un accès aux services de base tels que les soins de santé et l'éducation. Le fait qu'ils arrivent et s'installent dans certaines des régions les plus arides du Niger rend leur situation encore plus précaire. Le Niger est frappé par une grave crise alimentaire engendrée par la sécheresse et des violences djihadistes qui ont empêché les paysans de cultiver leurs champs. Tillaberi, situé dans la zone dite de trois frontières entre Burkina Faso, Mali et Niger, et Tawa, deux régions immenses et instables, sont le théâtre depuis 2017 d'actions meurtrières de groupes armés liés à Al-Qaïda et au groupe État islamique, également très actifs au Mali et au Burkina Faso. Le sud-est du Niger, en particulier la région de Diffa, frontalière du Nigeria, est frappé par les attaques des groupes djihadistes nigériens Boko Haram et État islamique en Afrique de l'Ouest. Les États-Unis ont arrêté 7 800 migrants par jour le long des 3 200 km de frontière avec le Mexique, 5 fois plus que la moyenne sur la période 2014-2019. Ce flux pourrait augmenter à partir du 23 mai, date à laquelle Washington doit lever une restriction sanitaire à la migration issue d'une loi de 1944 destinée à éviter la propagation des maladies contagieuses. réactivée sous la présidence de Donald Trump en mars 2020 au début de la pandémie de COVID-19. Cette mesure a permis aux États-Unis d'expulser près de 1 800 000 migrants en situation irrégulière. Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a estimé la semaine dernière que les États-Unis devaient contribuer à une solution commune pour limiter l'immigration irrégulière au départ de pays d'Amérique centrale liés à la pauvreté. Protagoniste du phénomène migratoire, les États-Unis devraient donc être co-responsables dans l'élaboration d'une solution en modifiant leur politique migratoire, a déclaré le président mexicain à l'issue d'une rencontre avec son homologue salvadorien Nayib Bukele. Washington doit également aider à lutter contre la pauvreté et la violence qui obligent des millions de personnes à quitter leur lieu de résidence.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Mesdames et messieurs, amis auditeurs, Donatien Niembo était heureux de vous présenter ce programme. Nous sommes arrivés à la fin et merci pour votre fidélité.
Ma vie c'est le Christ et son évangile. Je veux être à lui, être son ami. Je lui donne ma vie, tout ce que je suis, car il m'a aimé et m'a racheté. Ô Seigneur, accueille-moi, car tu es mon roi. Oh, quelle joie d'être toujours à toi. Ô Seigneur, accueille-moi, car tu es mon roi. Oh, quelle joie d'être toujours à toi. Il m'a tant cherché et enfin trouvé. Je suis complet, je veux le louer, je veux l'acclamer, partout annoncer.